Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Un manager sur deux en France a été au moins confronté une fois à un problème de management lié à la question du fait religieux en cause, les demandes d'absence pour fêtes religieuses, le port de signes religieux, les demandes d'aménagement d'horaire et plus rarement les demandes de prière. Le religieux a-t-il droit de citer dans l'entreprise? Que dit l'Église et sa doctrine sociale à ce sujet? La loi française a-t-elle évolué ces dernières années? Existe-t-il une sorte de guide du fait religieux dans les entreprises privées? Si vous voulez avoir des réponses à toutes ces questions, restez avec nous. Vie d'entreprise et faits religieux, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. L'un de nos rendez-vous réguliers en partenariat donc avec les entrepreneurs et dirigeants chrétiens, EDC, et avec le MCC, Mouvement Chrétien des Cadres et Dirigeants. Et ce matin avec nous, Jean-Emmanuel Dehena, vous êtes prêtre religieux carme, professeur de théologie à l'Institut catholique de Toulouse et à l'IERP, l'Institut d'études religieuses et pastorales, et donc conseiller d'une équipe des EDC. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Denis Avril, vous êtes cadre à la retraite, ancien membre du MCC, mais aussi des EDC. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Voilà, cadre, ancien cadre dans l'aéronautique essentiellement. Et heureusement que vous êtes un ancien cadre du MCC et des EDC, puisque vous êtes aujourd'hui notre seul témoin. On essaiera de donner la parole de manière indirecte à Benoît-Marie Flack, qui est chef d'entreprise et qui devait donc participer à cette émission au nom des EDC, mais qui est officier de réserve et qui a été appelé sous les drapeaux. Alors, le fait religieux et la vie d'entreprise, pas facile pour vous, Jean-Emmanuel Dehena, parce que il n'y a pas un chapitre de la doctrine sociale de l'Église sur le fait religieux, même si l'Église embrasse toutes les réalités humaines. Peut-être la première chose à faire, en tout cas c'est comme ça que je vous lancerai, est de dire et de rappeler et de redire, parce que ce n'est pas une évidence pour le grand public, peut-être pour beaucoup de chrétiens, que la liberté de la personne, c'est une valeur essentielle et fondamentale de la foi chrétienne, non? Faut-il commencer par cela?
Je pense qu'il faut commencer par cela, parce qu'il me semble que la question du fait religieux en entreprise s'inscrit dans la question de la liberté de conscience, qui elle-même, plus largement, s'inscrit dans la liberté religieuse. Donc, il faut revenir à ses fondements, et tout cela repose sur la dignité de l'homme. Concrètement, l'homme est créé à l'image de Dieu, il est créé avec une raison et une volonté libre. C'est ça le grand fondement. Et donc, au nom même de cette dignité, l'une des dignités les plus profondes de l'être humain, c'est de pouvoir pratiquer ou ne pas pratiquer sa religion. Et ça, c'est une question fondamentale, très centrale, puisque ça touche l'intime. Et si cet intime-là n'est pas préservé, alors toutes les autres libertés peuvent être attaquées sur tel et tel point précis. Là, c'est vraiment la liberté la plus fondamentale, celle de conscience en profondeur. Or, le Concile Vatican II s'est prononcé là-dessus. Donc oui, je crois qu'il faut partir de là.
Alors, je citerai donc la doctrine sociale de l'Église, si je ne me trompe pas. L'homme ne peut tendre au bien que dans la liberté que Dieu lui a donnée, comme signe sublime de son image. Dieu a voulu le laisser à son propre conseil pour qu'il puisse de lui-même chercher son Créateur en adhérant librement à lui. J'ai noté néanmoins un petit peu plus loin la chose suivante. Le juste exercice de la liberté personnelle exige des conditions précises d'ordre économique, social, juridique, politique et culturel, qui sont trop souvent méconnus et violés. L'un ne va pas sans l'autre.
Et absolument.
Il ne s'agit pas d'avoir une liberté sans cadre et sans limite.
Bien entendu, puisque c'est une liberté à l'intérieur d'une société. Ce n'est pas une liberté absolue. C'est une liberté à l'intérieur d'une réalité. Ma liberté s'arrête où commence la liberté des autres, comme on le dit souvent. Donc il s'agit plutôt de garantir précisément l'exercice de la liberté. Et pour pouvoir garantir cet exercice de la liberté, il faut justement une justice, il faut un droit qui dise les droits des uns et des autres, les devoirs des uns et des autres, donc y compris dans l'entreprise, et qui oblige chacun à s'interroger, est-ce que nous sommes au service du bien commun? Il faut préserver le bien commun. Si, bien entendu, le fait religieux devient une source de conflits, de tensions, d'impossibilité de vivre ensemble, bien sûr, ça devient une source de violence, une source de conflits, et là, ça ne fonctionne plus. Donc, oui, effectivement, il faut revenir à ça. Je ne sais pas quel est le document exact que vous avez cité, mais enfin, ça rejoint en tout cas la déclaration sur la liberté religieuse du Concile Vatican II. de c'est sur celui-là que je m'appuie particulièrement. Alors c'est pas au sens strict, ce n'est pas la pensée sociale de l'Église, mais évidemment tout cela est lié dans la pensée sociale de l'Église. Il y a la dignité de l'homme, il y a la responsabilité personnelle et la responsabilité communautaire. Tout cela est développé dans la doctrine sociale de l'Église et qui elle-même est fondée sur une anthropologie, sur une certaine vision de l'homme. L'homme est capable de chercher par lui-même. Il est responsable de sa conscience. Évidemment, cette conscience, elle doit se former parce qu'elle peut être aussi déformée. Et donc, ce n'est pas aussi évident que cela. C'est bien pour cela que ça s'éduque, qu'une conscience doit s'éduquer. Donc, y compris pour le fait religieux, sur la réflexion interreligieuse, sur la connaissance des autres religions, mais la connaissance de sa propre religion. C'est aussi la question de chercher la vérité. L'être humain, alors ça, c'est la conviction chrétienne, mais qui est partagée par d'autres religions aussi, l'homme est fait pour la vérité, pour rechercher la vérité. Et donc, il faut qu'il se pose des questions par rapport à la vérité de Dieu, mais aussi de lui-même. Il est doué pour chercher la vérité. Évidemment, parfois, il se trompe, parfois, il peut en conscience penser que telle ou telle chose est fausse alors qu'elle ne l'est pas, etc., etc. C'est pour ça d'ailleurs que cette question de la liberté religieuse a posé tant de difficultés. Parce que est-ce que c'est le relativisme absolu? Est-ce que c'est chacun sa liberté, chacun sa conscience, chacun se fait sa petite religion à soi? Et c'est pour ça que les disciples de Mgr Lefebvre n'ont absolument pas accepté ce texte-là, parce qu'ils ont considéré que c'était une mise en cause de la recherche de la vérité.
Alors en l'occurrence, le texte c'est « Dignitatis Humanae », c'est ça?
Celui non. que vous avez cité.
Non, celui que vous vouliez citer du Concile Vatican II.
Oui, non, c'est une déclaration sur la liberté religieuse, ça s'appelle comme ça, officiellement.
Si on continue donc sur la liberté religieuse, c'est vrai que de prime abord, en tout cas aujourd'hui dans la société française, on n'associe pas forcément de but en blanc le christianisme à la religion qui a fondé cette liberté de conscience et cette liberté religieuse. Pourtant, là j'ai retrouvé une intervention de Mgr Roland Minrath, ancien archevêque de Dijon, qui revenait justement sur une des déclarations du concile. Alors là c'est Dignitatis Humanae. Il disait la chose suivante, c'est dans le terreau du christianisme qu'est née l'idée de liberté de religion. C'est probablement une évidence pour certains auditeurs, mais c'est bon de le redire. Pourquoi la liberté de religion est consubstantielle au christianisme, frère Jean-Emmanuel de Hénin?
Alors, je laisse à chacun, la paternité de ses propos.
C'est une invention du christianisme, même, dit cet évêque.
Alors, il est certainement bien plus doué, mieux placé que moi pour le dire. Je note quand même que dans l'islam, dans le Coran, il dit « en matière de religion, pas de contraintes ». Alors, c'est vrai que le Coran, c'est complexe, parce qu'un verset dit ça, et puis d'autres versets disent un petit peu des choses un petit peu différentes. Donc, je ne suis pas spécialiste de l'islam, mais enfin, je note quand même, dans le dialogue interreligieux, que ce verset existe dans le Coran. Donc, on ne peut pas non plus dire trop vite ou faire des résumés trop rapides. Ceci étant dit, il est évident que notre anthropologie, c'est-à-dire notre vision de l'homme judéo-chrétienne, qui fait que l'homme est à l'image de Dieu, donc doué de raison et doué de volonté, est quand même quelque chose de très spécifique à notre révélation judéo-chrétienne. Et que c'est sur ce fondement-là qu'effectivement, on va prôner la liberté de conscience, la liberté religieuse, la responsabilité que chacun a, et individuelle et sociale.
Mais en quoi le fait d'être à l'image de Dieu fonde cette liberté?
Si, elle fonde cette liberté, oui, c'est très simple. Enfin, simple, si j'ose m'exprimer ainsi, c'est évidemment complexe. Mais l'image de Dieu, ça veut dire que Dieu, il a une intelligence et une volonté. Si nous sommes créés à son image, c'est que nous avons une intelligence et une volonté. Dieu est libre, nous sommes libres. Nous sommes à son image. Et donc, en ce sens-là, ça fonde la liberté de chercher la vérité. C'est-à-dire que ce n'est pas, contrairement peut-être à d'autres religions, une soumission sans réflexion, sans engagement, sans choix. C'est pas « je me soumets, c'est comme ça parce que c'est comme ça » et il n'y a pas d'autre solution que le fatalisme, soit le fatalisme du destin, soit le fatalisme d'une loi qui s'impose à moi. Non, je suis invité en tant qu'être à l'image de Dieu à chercher la vérité, à être sans cesse dans cette quête de la vérité. En ce sens-là, ça fonde la responsabilité et la liberté, et il faut garantir cette liberté donc dans la société d'une manière générale, et donc pour ce qui nous concerne ce matin, dans l'entreprise, il faut pouvoir garantir cette possibilité-là de croire ou de ne pas croire, de pratiquer ou de ne pas pratiquer.
Alors, est-ce qu'il n'y a pas une autre précision importante à faire ? C'est aussi la séparation, de différentes dimensions. Pour ça, on cite souvent ce passage de l'Évangile, quand le Christ dit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». On y voit comme une annonce ou une préfiguration du régime laïque. Enfin, certains y voient comme une préfiguration du régime laïque dans lequel nous sommes. Voilà, séparation de certaines dimensions. Est-ce là aussi un fruit du christianisme, dans le fond, que de laisser à la religion sa part, à l'État sa part et à la vie d'entreprise son autre part ?
Je dirais que c'est une conséquence. Je ne sais pas si c'est intrinsèque, je pense que c'est une conséquence qui s'est déployée dans le temps. Je vous renvoie pour cela à une magnifique réflexion du cardinal Lustiger, justement sur cette phrase-là, « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu » devant des hommes politiques. Je n'ai pas le temps ici de développer sa pensée, mais qui montre bien que ce n'est pas la séparation, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passait ? C'est que très souvent, l'autorité a été divinisée. Hein, vous voyez, par exemple, les Césars, au tout début du christianisme, qui deviennent dieux et auxquels on demande de faire un culte, hein, auprès de ces Césars, deviennent divins, deviennent des êtres divins. Et les chrétiens qui se refusent à diviniser le pouvoir, par exemple, pour prendre un exemple très concret. Donc c'est pour ça aussi que les chrétiens vont, tout au long des siècles, être très souvent persécutés, c'est encore le cas aujourd'hui dans bien des pays du monde actuellement, sont persécutés parce qu'ils disent non. L'État n'est pas tout. L'État ne peut pas tout gouverner, tout dire, tout prévoir. Il y a un espace qui est ma conscience, qui est mon intériorité, qui est ma relation avec Dieu, qui est supérieur à ce que l'État peut diriger. Et évidemment, un certain nombre d'États ne peuvent pas accepter qu'il y ait un domaine qui leur échappe. Donc là, effectivement, dans le judéo-christianisme, il y a une réalité qui ne se laisse pas réduire aux politiques. En même temps, il y a eu l'excès inverse, la tentation par le religieux de se servir du politique, le bras armé de l'Église. Et donc là, il y a confusion entre les deux domaines. Il y a eu aussi... Enfin bon, voilà, toutes ces questions sont extrêmement complexes, mais effectivement obligent à se positionner autrement par rapport aux faits religieux dans la société.
Alors si on essaye de redescendre, donc on continue, on va dire, le zoom, jusque dans la vie d'entreprise... De prime abord, que répondriez-vous à cette question, peut-être avant qu'on se penche sur ce que dit la loi aujourd'hui, le religieux a-t-il le droit de cité dans la vie d'entreprise ? Est-ce qu'à un moment ou un autre, l'Église a un discours sur ce sujet, frère Jean-Emmanuel de Hénin ?
Oui, c'est la liberté de conscience, absolument. C'est-à-dire que le religieux fait partie du réel. C'est un petit peu la difficulté dans la mentalité française, particulièrement française, dans laquelle le fait religieux ne fait pas partie de la réalité. C'est une réalité purement privée, qui ne doit avoir aucun droit de cité. Alors tout le problème est qu'est-ce qu'on entend par droit de cité ? N'aurait aucun droit de cité. C'est fallacieux. Il y a des gens croyants, il y a des gens incroyants. Cela fait partie du réel des personnes. C'est une réalité. Et donc l'Église dit qu'il faut respecter cette réalité du fait religieux, de la réalité des croyants, et donc de respecter les croyances. Donc une personne ne peut pas aller à l'encontre de sa conscience. Conscience qui peut venir pour des raisons religieuses, mais qui peut être aussi l'objection de conscience par rapport à l'armée, par exemple, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Donc l'Église dit qu'il faut respecter la conscience. Vous ne pouvez pas poser un acte qui aille contre votre conscience. Donc il y a droit de cité à cette réalité-là. Évidemment, il y a des conflits. Il y a des moments où cela peut rentrer en conflit avec des réalités très concrètes, par exemple dans l'entreprise, de comment l'entreprise peut fonctionner, ne pas fonctionner. Si tout le monde se met à faire des objections de conscience pour un oui ou pour un non, évidemment, cela n'ira pas. Et l'Église dit cela aussi, il faut préserver le bien commun. C'est-à-dire que dans toutes ces questions-là, il faut sans cesse se poser la question, quel est le bien commun ? Et donc, pour ce qui est de l'entreprise, c'est le bien commun de l'entreprise. Nous sommes tous garants de ce bien commun, aussi bien les dirigeants que chacun des membres de l'entreprise.
Alors, à propos donc de cette place du fait religieux dans la vie d'entreprise, j'ai trouvé donc en préparant cette émission, en réponse à cette fausse question quelque part que je posais aux auditeurs, existe-t-il un guide pratique du fait religieux dans les entreprises privées ? Eh bien, la réponse est oui. Ce guide donc a été publié maintenant il y a quelques années. Il fait suite à quelques affaires, ça vaut le coup de les reciter, en tant qu'une qui a fait beaucoup de bruit, c'est l'affaire de la crèche Babylou. Une femme, Fatima Afif, salariée marocaine, qui a été licenciée en 2008 parce qu'elle portait un foulard, alors que le règlement intérieur demandait de respecter la laïcité, la neutralité, et demandait au personnel une certaine neutralité. Cette crèche d'ailleurs avait fermé. Il y a eu de multiples recours judiciaires, et finalement, donc, il a été acté que lorsque l'on est en contact avec, je vais essayer d'être précis, en contact avec la clientèle, ou quand un règlement intérieur dans une entreprise le prévoit, eh bien, le port de signes religieux distinctifs est interdit. Et il y a, en plus de ça, alors je peux peut-être vous laisser citer quelques exemples, parce que je crois que vous avez aussi ça sous les yeux, frère Jean-Emmanuel de Hénin, mais ce guide explique les situations dans lesquelles l'employeur peut autoriser certaines pratiques, ou au contraire, ce qu'il n'a pas le droit de faire, par exemple, se renseigner sur la confession d'une personne lors d'un entretien, interdire la pratique du jeûne, interdire qu'on discute de religion aussi sur un lieu de travail. Qu'est-ce que vous avez noté d'autre à propos de ce guide ?
Donc effectivement, juste pour préciser, il semble bien que ce soit, d'après mes informations, un guide pratique du fait religieux dans les entreprises privées qui a été produit par le ministère du Travail en 2017 et mis à jour en 2018. Donc on ne peut pas être davantage dans l'actualité. Et donc effectivement, j'ai ici un certain nombre de questions qui peuvent intéresser nos salariés. Voici par exemple une question. Dois-je laisser les salariés de mon entreprise manifester leur religion ? Réponse. Les salariés de votre entreprise peuvent librement manifester leur religion. En tout état de cause, la liberté de manifester sa religion trouve une limite dans le prosélytisme, entendu comme le zèle ardent pour recruter des adeptes pour tenter d'imposer ses convictions, notamment religieuses. Donc on voit très bien les deux bornes. Hein. D'un côté, bien sûr, librement manifester leur religion. Ils ont le droit de manifester leur religion, comme ils ont le droit de manifester qu'ils sont de telle équipe de foot, ou qu'ils ont... Voilà, c'est un droit inaliénable de la personne. En revanche, il y a quand même une liberté qui est de respecter la liberté des autres et de ne pas faire du lieu de l'entreprise un lieu qui deviendrait un lieu de prosélytisme, un lieu de discussion religieuse, parce que ce n'est pas le lieu. Donc c'est bien fait en ce sens-là, et il faut bien respecter chacune des réalités. Évidemment, se posent des questions après plus concrètes, par exemple... le ministère là propose une autre, un autre problème qui se pose régulièrement. Plusieurs salariés demandent la mise à disposition d'une salle pour pouvoir prier. Suis-je tenu de leur accorder ? C'est effectivement une question très très concrète, parce qu'une salle, ça veut dire que c'est une entreprise, c'est que cette salle elle est occupée, qu'il y a une rentabilité, donc ce sont des questions extrêmement concrètes. Et puis bien sûr, ça va avoir des conséquences sur le rythme de travail, sur les raisons du travail. Bon, c'est une vraie question. Réponse. Non, vous n'êtes pas tenu d'accéder à cette demande. Pour autant, rien ne vous y interdit d'y faire droit. Et c'est là que, donc moi je suis conseiller spirituel EDC, c'est là qu'il y a un travail pour les entrepreneurs et dirigeants chrétiens de savoir pourquoi j'accepte ou je n'accepte pas la demande qui m'est faite, par exemple, pour une salle de prière. On parlera tout à l'heure du témoignage de Benoît Marie qui fait partie de mon équipe, mais c'est très intéressant. Le ministère a dû se prononcer sur cette question parce que c'est une question pratique, concrète. On n'est pas tenu d'accéder à cette demande, ce n'est pas une obligation. Et cependant, il faut quand même se demander s'il ne faut pas y faire droit, dans quelles conditions il faut y faire droit. C'est des vraies questions de conscience. C'est un cas de conscience, au sens, comme on le dit classiquement dans l'Église catholique, examiner sa conscience, faire un examen de conscience. Et il y a beaucoup de tenants et aboutissants, il n'y a pas de réponse toute simple, valable en tout temps, en tout lieu, quelles que soient les circonstances. C'est faux. Il peut y avoir des raisons parfois de refuser, il peut y avoir des raisons parfois d'accepter. Il y a là une intelligence de la situation qui revient en particulier à l'entrepreneur qui doit décider.
Et bien, la transition est toute faite pour la deuxième partie. On va donner la parole donc aux membres des EDC et du MCC présents en plateau ou représentés. Moi, j'ai juste souvenir comme ça d'un reportage, si je peux me permettre cette incise, d'un chef d'entreprise qui avait décidé qu'il y avait il allait avoir une pièce en fait qui allait être dédiée, je vais y arriver, à une forme de spiritualité. Voilà, une pièce qui signe aussi qu'il y a en chacun une autre dimension, quitte à ce que cette pièce ne soit jamais occupée, une dimension spirituelle ou religieuse. On fait une première pause et puis on vous retrouve pour voir comment ça se passe sur le terrain.
Présence.
Emmanuel Pella.
Vie d'entreprise et faits religieux, c'est pour rappel donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Cette émission en partenariat avec les EDC, entrepreneurs et dirigeants chrétiens, et le MCC, mouvement chrétien des cadres et dirigeants. Il n'y a pas le D dans le sigle. Autour du plateau, Jean-Emmanuel Dehena, religieux carme, professeur de théologie à l'Institut catholique de Toulouse et à l'IERP, l'Institut d'études religieuses et pastorales, et conseiller d'un groupe EDC, et Denis Avril, vous êtes cadre à la retraite et vous êtes un ancien membre de ce mouvement, mais aussi du MCC. Dans cette deuxième partie, donc, comme à chaque fois, on va essayer de voir ce qui se passe dans la vraie vie, avec les vrais gens, comme on dit, comme disent certains. Je voulais juste peut-être apporter encore une information. J'ai trouvé ça dans le journal La Dépêche. J'avais cité ce chiffre d'un manager sur deux qui serait en France aujourd'hui confronté un jour à une question tournant autour du fait religieux. J'en ai trouvé un autre, ça c'était un sondage de 2015, un autre paru dans La Dépêche en 2018 qui dit que l'expression de l'appartenance religieuse au travail se banalise et dans plus de 90% des cas, elle ne gêne pas la tâche à accomplir. Voilà, c'est une étude de l'Observatoire du fait religieux en entreprise. Alors si on commence avec vous, Denis Avril, qu'est-ce que cette question évoque et pourquoi vous a-t-on missionné pour venir nous parler, nous donner votre témoignage? Quand avez-vous été confronté dans votre carrière à une telle question?
Oui, pour moi, le fait religieux, c'est effectivement ce qu'on a évoqué, c'est-à-dire comment régler les revendications de certains ou les différences, comment régler le prosélytisme éventuellement qui peut arriver. Je vais citer un cas là-dessus. Mais il y a aussi quelque chose d'important, c'est comment soi-même on se comporte vis-à-vis de la religion. Est-ce qu'on doit témoigner? Est-ce qu'on doit ne pas en témoigner? Mais j'ai vu des cas où le propre comportement, sa façon de vivre, simplement témoigne. Et il me semble que ça, c'est un élément important du fait religieux en entreprise. Donc je vais citer, bon, il m'est arrivé en étant directeur général...
En tout cas, vous n'avez pas le droit de faire de prosélytisme, c'est ce que dit aujourd'hui la loi française.
Oui, absolument, mais son propre comportement, j'allais dire. Hein, je vais vous montrer comment. J'étais directeur général, je me rappelle, d'une entreprise dans le domaine de l'aéronautique. Et simplement, j'ai pris mes fonctions, etc. Puis je me suis comporté comme normalement, sans parler de ma religion ni rien. Et j'ai vu un, puis deux cadres supérieurs, qui m'étaient donc directement rattachés, me faire part aussi de leur attachement catholique. Et donc ils avaient vu que j'étais sans que je l'ai jamais dit. Et donc là, il y a un problème. C'est pas un problème, c'est une action de témoignage que je ne crois pas qu'on puisse mettre dans le prosélytisme, mais qui est simplement le comportement qui se fait. Donc je crois que c'est quand même important, lorsqu'on est chef d'entreprise, de savoir que finalement, par ses actions, on peut influer. Et un peu plus tard, d'ailleurs, dans la même entreprise, et toujours dans le même domaine un peu du témoignage, nous avons malheureusement à faire un enterrement d'un collaborateur, c'était plutôt un ancien collaborateur, donc beaucoup de personnes sont allées à cet enterrement, où il y avait une messe d'enterrement avec l'Eucharistie. Et au moment de l'Eucharistie, j'ai vu que la famille y allait, puis ça ne bougeait pas. Moi, j'y suis allé, et à ce moment-là, j'ai vu un certain nombre de mes collaborateurs, dont j'ignorais totalement, d'ailleurs, l'engagement chrétien, qui sont venus. Et j'ai eu l'impression qu'ils hésitaient à y aller, et c'est quand moi j'ai fait le geste qu'ils l'ont fait.
Vous qui étiez en responsabilité.
Moi qui étais en responsabilité, oui, voilà.
Alors, c'est des introductions, non? Quel est le
c'est déjà un témoignage.
C'est déjà pas mal, tout à fait. Mais est-ce que vous en aviez un autre?
Alors, j'en ai un autre.
Voilà, pardon.
J'en ai un autre qui est effectivement d'un conflit, qui est né, alors la personne objet de ce conflit-là n'était pas directement liée, donc il y avait un encadrement intermédiaire qui a géré les choses. C'était une personne de religion musulmane qui travaillait avec d'autres et puis qui a commencé à être un peu harcelée d'une manière ou d'une autre.
C'est cette personne qui était victime de harcèlement.
Voilà.
Cette personne de confession musulmane.
Absolument.
Quel type de harcèlement c'est...
On lui disait qu'il était incompétent et tout, que c'était embêtant. Alors c'est vrai qu'il y a des moments où il faisait pas complètement sa religion, il ne faisait pas les 5 prières par jour, mais il a fait le ramadan, par exemple. Et certains estimaient que c'était gênant parce que bon, il n'était pas tout à fait complètement efficace. C'est ce qu'on me rapportait. Et j'ai senti que le management intermédiaire avait du mal à régler le problème parce que ça montait un peu. Et il se trouve que cette personne a demandé à me voir. Donc, bien entendu, je l'ai reçu. Et il m'a raconté sa vie. Et effectivement, il m'a dit qu'il y en avait d'autres, des musulmans, et que lui, il était fils de harki. Donc, il y avait un mélange à la fois de religion, mais aussi de politique. Parce que c'était des musulmans, donc je n'ai pas demandé de
détails. Donc l'Arki, pour rappel, pour ceux qui ne le sauraient pas, hein, ce sont ces, voilà, ces Algériens qui ont soutenu les Français au moment de la guerre d'Algérie.
Voilà, exactement. Voilà, et donc là, je suis intervenu très fermement, simplement en disant qu'il n'était pas question que l'on juge quelqu'un uniquement pour ses croyances religieuses et pour ses positions politiques, et surtout de ses parents, j'allais dire, et que ça devait se terminer, sinon je serais amené à prendre des sanctions. J'ai été relativement ferme, et ça s'est arrêté, si vous voulez. Voilà, un peu, il peut y avoir des mélanges comme ça, on ne sait pas toujours d'où viennent ces fêtes, et je crois qu'il faut pas mal de discernement, et il faut un appui seulement de la direction générale, parce que souvent l'encadrement intermédiaire est un peu gêné, parce qu'il ne sait pas très bien comment au-dessus des ça va se passer. Hein. Donc il faut être là en appui du terrain, je vais dire.
Est-ce qu'au long de votre expérience professionnelle, ce chiffre, j'avoue que j'ai cité plusieurs fois, là, m'a quand même surpris. Aujourd'hui, un manager sur deux qui est confronté à un moment ou à un autre à cette question du fait religieux, vous avez eu l'impression que ça a été en augmentant au long de votre carrière, ou vous êtes surpris vous-même par ce chiffre ?
Non, je ne suis pas surpris, parce qu'on voit bien très bien que dans la société, ce fait religieux monte du fait de la montée d'une autre religion qui est dérangeante, hein, d'une manière ou d'une autre, de toute façon, parce qu'elle change les habitudes.
L'islam, donc, en l'occurrence, oui.
Bien sûr, l'islam. Moi, donc, j'ai 70 ans maintenant, donc tout au début de ma
vous
carrière...
Vous ne les faites pas, rassurez-vous.
Merci. Tout au long de ma carrière, au début de ma carrière, ce n'est pas des choses dont on parlait. Ça n'existait pas. Hein. Enfin, moi, j'ai vécu dans des pays musulmans, donc je voyais même un peu la différence. Ça n'existait absolument pas. Et ce n'est que vers la fin, notamment ces cas que je cite, que je l'ai vu. Hein. Non pas qu'il n'y ait pas de musulmans, mais ça ne se voyait pas. Parce qu'eux-mêmes, d'ailleurs, ne faisaient pas d'affichage de leur religion à l'époque. C'est lorsque c'est monté en puissance et donc en proportion de la population que ça a commencé à créer des problèmes. Donc ces problèmes, d'ailleurs, dont je viens de parler, c'était dans mon dernier poste, enfin mon avant-dernier poste, pour être plus précis, si vous voulez.
Voilà, c'est pas le sujet de l'émission, mais je pense que les auditeurs qui écoutent régulièrement cette antenne auront aussi en tête que l'islam a un rapport, on va dire, aux politiques, qui est peut-être un peu différent du christianisme, et donc c'est peut-être aussi pour ça que se pose de plus en plus la question. Voilà, l'islam englobant toutes les réalités de la vie, et il y a un primat du religieux sur toutes les autres réalités. Est-ce que je résume correctement, frère Jean-Emmanuel, si vous deviez rajouter une incise sur le sujet ?
Oui, il a... Ce qui est clair, c'est qu'il y a un rapport différent, et différent de notre tradition à nous, occidentale, c'est évident. En même temps, l'islam nous oblige à nous poser la question de la place de la religion dans la société civile. On a cru que la question était réglée en mettant la religion de côté. En fait, c'est beaucoup plus complexe. Je prends un autre exemple différent. Il est évident, comme je connais assez bien le judaïsme, qu'un certain nombre de jeunes juifs, face à l'identité religieuse des autres, affichent aussi leur identité religieuse juive, et donc vont demander de ne pas avoir à travailler le samedi, de partir plus tôt le vendredi soir pour pouvoir fêter Shabbat. Donc il ne faut peut-être pas non plus que focaliser dans un sens, c'est-à-dire que de fait, la religion, on pensait que c'était une question réglée, or on découvre que ce n'est pas une question réglée. Donc... Effectivement, comme l'islam a un rapport à la politique, à la vie sociale, à la société qui est différente, vraiment différente de la nôtre, de notre tradition, effectivement, ça pose des questions qu'on ne se posait plus.
Alors, puisque vous êtes chargé de faire écho au témoignage de Benoît-Marie Flack, j'espère que je prononce correctement son nom, donc jeune chef d'entreprise qui est officier de réserve et donc qui a été appelé il y a quelques jours sous les drapeaux, dites-nous quel devait être son partage d'expérience, Jean-Emmanuel Dehaelin.
Alors, il m'a transmis son témoignage, donc dont je vais effectivement me faire l'écho. Je le remercie d'ailleurs de l'avoir fait. Désolé qu'il ne puisse pas le faire en personne. Donc lui, il a 29 ans, il est entrepreneur, il est start-up, hein, donc vraiment dans la réalité d'aujourd'hui. Il est tout jeune membre de mon équipe EDC, il vient d'arriver. Et donc, il était intéressé particulièrement par cette émission parce qu'il avait effectivement quelque chose à rapporter. Il a été consultant dans quelques multinationales et dans ce cas-là, il a fait une expérience parce qu'il a rencontré un grand nombre de personnes de religions et de convictions différentes. Ce qui arrive de plus en plus dans les multinationales, évidemment, on vient de partout, de tas de nationalités. Bon. Or, lors des pauses, dit-il, il n'était pas rare que nous parlions de religion, surtout entre chrétiens et musulmans. De fait, le vendredi, il se retrouvait avec les musulmans entre midi et deux. Et donc, il se trouve que les musulmans allaient prier à la mosquée et cela ne l'avait pas laissé indifférent. Et du coup, il a mis sur pied, avec plusieurs autres personnes, une sorte de rituel du vendredi. Concrètement, ça voulait dire quoi ? Que les catholiques allaient à la messe et les musulmans à la mosquée, au même moment quasiment. Et puis après, ils se retrouvaient à table et d'autres personnes qui étaient intéressées par la question, ils se retrouvaient à faire des tablés, donc en entreprise, entre croyants, avec croyants. Enfin, il n'y avait pas évidemment de sélection, mais ils
s'étaient... Et pour parler religion ?
Et donc, en particulier, ils se mettaient à parler religion. Je vous cite sa phrase... pour être plus clair, lorsque nous revenions de nos cérémonies respectives, nous déjeunions ensemble au self et cela créait de grandes tablées, si bien qu'il n'était pas possible de nous ignorer. Lors de ces déjeuners, dont je garde un excellent souvenir, nous discutions qui de telles paroles de l'imam qui l'avait touché, qui de tels extraits de sermons qu'il avait trouvé intéressants, mais toujours de sujets profonds appliqués au cœur de l'individu, si bien que cela nous faisait progresser mutuellement dans nos chemins de foi respectifs. Quand même un témoignage tout à fait intéressant, c'est-à-dire que ils ont discuté entre croyants, chacun pratique sa religion, on se retrouve à table et on parle de nos religions respectives, ce qui permettait très concrètement de discuter également de nos fêtes religieuses et de leur signification. Qu'est-ce que ça veut dire Noël ? Qu'est-ce que ça veut dire le Ramadan ? Qu'est-ce que vous vivez ? Et comme on est dans le respect et dans la bienveillance, parce qu'on est entre croyants, c'est ça aussi qui est important. Donc j'accepte que tu crois et tu acceptes que je crois. Et entre personnes de bonne volonté. En faisant souvent profiter le groupe de quelques spécialités culinaires reliées à ces fêtes. Ça, c'est aussi intéressant, le partage de la table. Ce n'est pas notre religion chrétienne, judéo-chrétienne, que ça va poser de problème. On n'arrête pas d'avoir des repas tout le long de la Bible. Et Jésus lui-même a été appelé...
Glouton, donc...
Voilà, il a été même traité de glouton. Donc, c'est aussi ça, le fait religieux en entreprise. On mange ensemble, on partage des spécialités culinaires et ça permet d'ouvrir la bouche et les cœurs.
Donc, témoignage tout à fait positif.
Tout à fait positif.
Sans réserve ou sans interrogation ?
Alors, si, justement, sans réserve, je ne sais pas, mais au bout de quelques temps, il dit, on a tiré de nouveaux collègues. Et même des athées ont commencé à être intéressés par la discussion. Il y en a même certains qui sont venus accompagner les catholiques à la messe pour voir ce que c'est, pour voir ce que c'était. Ils n'avaient jamais mis les pieds dans une église. Donc, c'est ça le témoignage positif, concret. Est-ce qu'ils se sont convertis ? Non, telle n'est pas la question. Mais le fait religieux peut faire partie de la réalité en entreprise. On peut en parler. Et du coup, ils ont collectivement eu l'idée d'organiser au sein de l'entreprise une prière interreligieuse. Alors, entendons-nous, il ne s'agit pas de prier, de tout confondre. Ça veut dire que chacun, ils se mettaient ensemble dans la même salle, si mes souvenirs sont bons d'après ce qu'il m'a dit oralement, et chacun priait à sa manière à lui, son Dieu, et puis une prière pour la paix. Un peu dans le sens, évidemment, de assise. Et donc, du coup, ils ont demandé une salle adéquate à leur supérieur dans l'entreprise. Et là, ils se sont heurtés à un refus plus que catégorique, dit-il dans son témoignage écrit. Tant le sujet religieux en entreprise avait l'air de les effrayer.
Entreprise
oui,
française.
Je ne sais pas. Il me dit
pas.
Multinationale.
On n'aura pas le fin mot de l'histoire.
Et donc, je ne le sais pas. Je ne peux pas me prononcer. Dans son témoignage écrit, il me dit simplement qu'il s'agit d'une multinationale. Donc, vous voyez, c'est intéressant. D'un côté, l'aspect positif par les membres de l'entreprise. Et de l'autre côté, le fait religieux pose problème, pose question. Est-ce qu'on peut lui faire droit de citer, comme vous disiez tout à l'heure, ou pas, à l'intérieur de l'entreprise ?
En tout cas, si on se réfère donc à ce guide pratique du fait religieux dans les entreprises privées, ils avaient donc le droit de discuter à l'heure du déjeuner de religion.
Ce droit est inaliénable. On peut pas, l'entreprise ne
Sauf
peut pas
parce que l'un
dire...
ou l'autre commence à faire du prosélytisme.
Exactement, c'est ça la différence.
Et il aurait pu leur être accordé cette salle de prière.
Et en soi, elle aurait pu être accordée. Je ne sais pas les raisons pour lesquelles la direction a refusé cela, mais en soi, d'un point de vue du droit, ça aurait pu être le cas. Lui, en tout cas, Benoît Marie, puisque je veux quand même... Lui, il en retire quelque chose de très riche, quelque chose de très positif. Il dit, très riche, synonyme d'apport mutuel et d'ouverture à l'autre, proche du message évangélique, en somme. Et il retient aussi qu'il y a une frilosité liée à la peur de la part des cadres, car ils ont du mal, à prendre en compte ce fait religieux. C'est vrai qu'on est... En tout cas, dans notre diction occidentale, on est gêné par le fait religieux. C'est une gêne, ça produit une gêne. Pour la petite histoire, quand il y a eu les JMJ à Paris, dans les entreprises, en mois d'août, il n'y avait rien d'autre à parler, évidemment, que les JMJ. Donc, croyant ou pas croyant, il y avait les JMJ, il n'y avait que ça à faire. Bon. Or, des gens qui étaient dans la même entreprise depuis 20 ans, 30 ans, ont découvert que leurs collègues étaient catholiques pratiquants à cette occasion. C'est quand même un peu gros, être 20 ans dans la même entreprise, dans la même équipe, et ne pas savoir que l'autre est catholique pratiquant, alors qu'on aurait pu... Bon, ça prouve bien la gêne très française, à mon sens, parce que j'ai vécu, pour ma part, dans 6 pays différents. C'est pas la même chose dans d'autres pays, par rapport aux faits religieux en entreprise, dans la société.
Voilà, bah si on peut commencer à espérer parler de choses profondes avec ses collègues à l'heure du déjeuner, tout ça est une excellente nouvelle. On va faire une deuxième pause et puis on va vous retrouver pour des coups de cœur et coups de gueule, coups de cœur et coups de gueule en lien avec l'actualité économique et sociale. Et on parlera peut-être un petit peu aussi du travail du dimanche parce que ça n'est pas sans lien avec le thème du jour.
Radio Présence à Montauban, 93.3. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Vie d'entreprise et faits religieux, c'est pour rappel donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin en partenariat avec les EDC et le MCC. Si vous ne comprenez pas ces sigles, et bien vous aurez quoi réécouter l'émission en podcast, en Je plaisante. Entrepreneurs et dirigeants chrétiens, mouvement chrétien des cadres et dirigeants. Autour du plateau, Jean-Emmanuel Dehena, pour rappel, Carme, et entre autres professeur de théologie à l'Institut catholique de Toulouse et conseiller d'une équipe des EDC, et Denis Avril, cadre à la retraite et ancien membre de ces deux mouvements. Comme d'habitude, donc un coup de cœur, un coup de gueule. Alors, comme nous n'avons qu'un témoin aujourd'hui Avec le frère Jean-Emmanuel de Hénin, on parlera un petit peu du journal du non pas du journal du dimanche, mais du travail du dimanche. Votre coup de gueule, on va commencer par le coup de gueule. Denis Avril, c'est un... Et alors, grâce à vous, j'ai découvert ce fait d'actualité que je n'avais pas du tout vu passer. Pourtant, je suis en partie payé pour lire le journal. C'est une hausse d'avantages fiscaux que se sont accordés, ou plutôt que le Sénat a accordé aux maires, ou a essayé d'accorder aux maires en pleine crise des Gilets jaunes. Racontez-nous.
Oui, j'ai eu une réaction très importante quand j'ai entendu cette information, parce que c'était donc le 24 novembre. La crise des Gilets jaunes commençait déjà depuis une quinzaine de jours. Et puis, je vois que le Sénat vote un amendement à la loi de finances pour que la déduction fiscale des indemnités des maires soit augmentée, c'est-à-dire qu'elle passe de 650 à 1500 euros. C'est-à-dire à un moment où effectivement...
Pour ceux qui ne sont pas familiers tout ça, expliquez-nous déjà qu'est-ce que ça veut dire indemnité fiscale. Ça veut dire
C'est le salaire qu'ils touchent en tant que maire, simplement. L'indemnité qu'ils reçoivent. On l'appelle ça indemnité, mais c'est comme un salaire. Hein. Ce n'est pas représentatif de frais.
C'est-à-dire qu'on déduit...
Ils déduisent, c'est-à-dire s'ils touchent 2000, ils enlèvent 650 et puis voilà. Hein.
Donc c'est une indemnité mensuelle,
mensuelle, oui, absolument. Oui. Donc le gouvernement s'est opposé à ça, donc l'Assemblée, qui a la majorité issue du gouvernement, ne l'a pas voté, donc ça ne s'est pas passé.
Hein. Les discussions ont été suspendues par le ministre de l'Action des Comptes Publics, Gérald.
Voilà, donc ça n'a pas été discuté à l'Assemblée, et puis le gouvernement n'est pas passé. Alors il faut dire que ça faisait suite quand même à une action dans l'autre sens du gouvernement fin 2017, c'est-à-dire un an avant. Parce qu'un an avant, le plafond qui était à 7 000 ou 6 000, je ne sais plus, est redescendu à 660. Donc en fait, l'avantage fiscal était très important avant, et il a été redescendu. Bon, donc là, il y avait une action qui allait un peu dans l'amélioration des choses vis-à-vis des personnes, puisque le commun des mortels n'a pas d'abattement fiscal comme ça sur son salaire pour le plaisir. Alors je crois que ça va... Pourquoi ça m'a fait réagir de manière importante? Parce que ça va dans cette... on est dans un domaine où ce sont les élus qui se votent eux-mêmes leur salaire et leurs avantages. Moi, ça m'a toujours choqué. Moi, j'aimerais bien me voter mon salaire, pourquoi pas. Mais là, ce sont les députés, les sénateurs qui votent leur salaire et leurs avantages et qui n'appliquent pas les lois qu'ils votent pour les entreprises. C'est-à-dire, par exemple, à l'entreprise, quand vous avez un avantage en nature, vous avez un logement de fonction, vous avez une voiture de fonction, c'est déclaré et vous payez des impôts sociaux plus des impôts revenus, dessus. Eux, non, ils ne l'ont pas. D'ailleurs, c'est vrai dans une petite partie de la fonction publique aussi, et certaines entreprises publiques. Et je trouve ça absolument scandaleux. Et c'est vrai que ça fait partie du fond, je crois, qui s'accumule et qui fait à un moment, ça éclate et qu'effectivement, certaines personnes vont dans la rue, malheureusement des fois avec de la violence, parce que ça fait déborder le vase.
Voilà, ça c'était pour le coup de gueule. Le coup de cœur, c'est donc ce salon de Las Vegas, salon des start-up du monde entier, salon CES. Je vais vous laisser expliquer ce qu'est ce sigle CES de Las Vegas 2019, où les entreprises françaises ont été plus que bien représentées, et en partie aussi l'Occitanie. Racontez-nous.
Oui, d'abord, si je m'y intéresse, c'est que bien que je sois à la retraite, je travaille pour aider beaucoup des startups, pour les aider en tant que business angel et après pour leur ouvrir des réseaux. Et puis là, j'ai vu cette année, alors ce n'est pas la première année, mais le CES, c'est le Consumer Electronic Show, donc un peu le salon de l'électronique pour le consommateur. Et il y avait énormément d'entreprises françaises, et j'ai suivi ça, j'y suis pas allé, mais j'ai suivi ça un peu sur les réseaux, et j'ai vu l'enthousiasme de ces chefs d'entreprise qui étaient là-bas. Alors il y avait en Occitanie, il y en avait 46 quand même, j'ai pas le chiffre total pour la France, donc aidé par l'Occitanie, mais dire cette fois-ci pour une somme relativement modeste, je crois que ça a coûté 80 000 euros, pour l'impact que ça peut avoir, c'est pas énorme. Et on a, pour moi, c'était une lumière d'espérance dans cette grisaille actuellement en France à portée. Je me suis dit, bon, il y a des gens qui voient vers l'avenir, qui se prolègent vers l'avenir, qui se lancent, qui prennent des risques et qui vont presque à l'autre bout du monde pour montrer ça et qui ont beaucoup de succès. Il y a eu beaucoup de contacts. J'ai parlé avec quelques-uns après que je connais. Il y a eu énormément de contacts sur les stands. Et ça, c'est vraiment, c'est pour moi un espoir pour l'avenir. Voilà. Et c'est porté par des jeunes.
La France étant donc la nation la plus représentée pour l'Eureka Park, j'ai compris que c'était l'espace qui était réservé aux jeunes entreprises pour donc ce CES. CES, c'est Consumer Electronic Show. Voilà, tous les ans à Las Vegas. Alors, j'aimerais qu'on finisse peut-être par le travail du dimanche. J'ai vu passer, je ne sais pas si ce sera une forme de coup de gueule déguisé. Vous me direz que mes sources sont peut-être fallacieuses, mais je les ai quand même vérifiées. C'était dans le journal L'Humanité de novembre dernier. Le gouvernement aurait des velléités d'avancer sur le travail du dimanche et entre autres, donc de faire en sorte que l'on puisse passer de 5 à 12 dimanches travaillés après autorisation du maire, que les zones commerciales, le travail du dimanche soit étendu à toute l'année, et la même chose pour les fameuses zones touristiques internationales. On dit même que Paris pourrait devenir une zone touristique internationale où les grandes surfaces et autres magasins sont ouverts 7 jours sur 7. Est-ce que l'Église a un discours sur le sujet, hein, mais si on devait finir là-dessus, qu'est-ce que vous diriez? Il traîne, je vais préciser ma question. J'avais même entendu des entrepreneurs et dirigeants chrétiens parfois dire ça. Une journée de repos, pourquoi pas, mais ça peut être à la carte, après tout, en fonction de sa confession religieuse. Pourquoi est-ce que l'Église est si attachée, frère Jean Madeleine, à une journée en commun, le dimanche en l'occurrence?
Alors, il y a plusieurs dimensions. L'une des dimensions principales, c'est ce qu'on appelle la sanctification du temps. Vous le savez comme moi, vous connaissez le récit de la création. Le septième jour, Dieu se repose, chôme, et donc chômage par rapport à travail. Donc l'alternance entre travail et repos. Donc l'une des raisons fondamentales, c'est de dire l'homme n'est pas fait pour le travail. C'est le travail qui est fait pour l'homme. Et évidemment, je reprends l'expression « le Shabbat est fait pour l'homme et non pas l'homme pour le Shabbat ». C'est-à-dire que la dignité de la personne, il y a un moment où il faut comprendre que nous ne sommes pas faits que pour être efficaces. Et donc, il faut créer un espace qui est une journée où on sanctifie le temps, où c'est un temps à part. Ce n'est pas le temps ordinaire, ce n'est pas le temps de la semaine, c'est un autre temps. Et c'est cet autre temps qui va donner sens au temps ordinaire. Parce que si tous les jours ressemblent à tous les jours, 24 heures sur 24, 365 jours sur 365, il n'y a plus, le temps devient indifférent. C'est un peu le problème du marché économique, marché mondial, les bourses, vous pouvez passer d'une bourse à telle heure, vous passez à la bourse suivante à telle autre heure et à telle autre heure. Et les machines, elles ne s'arrêtent pas, elles n'ont pas besoin de dormir, elles n'ont pas besoin de manger, elles n'ont pas besoin de boire. Donc le marché, et à un moment donné, il faut quand même réfléchir sur ce que nous sommes en train de faire, parce que c'est ça aussi qui mène notre monde. Donc l'Église tient à dire, il faut un temps où on s'arrête pour penser à l'aspect transcendant de la personne, y compris les entrepreneurs et dirigeants, parce qu'eux aussi ont besoin de temps. Et pourquoi en commun? Pour permettre la vie de famille, parce que c'est souvent là que ça va permettre la vie de famille. C'est-à-dire que si évidemment chacun à la carte dans une société a son propre jour, eh ben les familles ne peuvent pas se retrouver. Alors,
la vie de famille et la vie sociale.
La vie de famille et la vie sociale. C'est-à-dire que ça permet que justement...
Club de foot, jeu de cartes,
exactement.
Et autres boules de pétanque.
Et
ça
oui,
paraît dérisoire.
Par exemple,
mais...
et la grasse matinée. Parce que quand on parle de la grasse matinée, là, les gens sont contents. Évidemment, le problème, c'est ça. Mais après, de l'autre côté, ils vont dire « Oh, ben, on s'ennuie le dimanche, il n'y a rien à faire. » Mais peut-être qu'il est bon de s'ennuyer. Peut-être qu'il faut apprendre à s'ennuyer. C'est bien le problème de beaucoup de nos jeunes. C'est qu'ils ne savent plus. Quand ils sont confrontés à l'ennui, ça veut dire qu'ils sont confrontés à eux-mêmes. Et ça vaut aussi pour des adultes, entre nous soit dit. Mais enfin, bon, je pense aux petits ados qui... en fait, c'est très important,
mais plus sérieusement,
la frustration.
Non pas que ça ne soit pas sérieux, mais j'aimerais juste que vous précisiez sur le temps social commun, l'importance de
le temps social commun, c'est-à-dire qu'il faut un espace commun où l'on puisse être dans une autre réalité que la réalité économique. Et donc c'est la réalité familiale, c'est la réalité du repas du dimanche, très important, qui pendant très longtemps a été quand même un fondement. Alors évidemment, la dispersion des personnes fait que c'est compliqué. Et bien sûr, du coup, pour nous, chrétiens, le lieu où on peut aller à la messe, où on peut prendre un temps pour prier, pour aller à l'église, et donc ou les autres personnes des autres confessions, alors effectivement, va se poser la question pour les minorités religieuses. Oui, pourquoi pas? Pourquoi ne pas trouver d'autres arrangements qui permettent, mais préserver l'aspect social d'un changement de rythme dans la vie sociale?
Eh bien, merci beaucoup. On en reparlera du travail du dimanche. Un grand merci à vous, particulièrement au frère Jean-Emmanuel Dohéna, qui a été deux hommes en un, décidément, que de talent, c'est carme. Un grand merci à vous et un grand merci aux entrepreneurs et dirigeants chrétiens et mouvements chrétiens des cadres et dirigeants. Rendez-vous est donné donc le mois prochain. Mon petit doigt me dit que nous parlerons de la vie d'entreprise et de l'écologie. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h et la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.